Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Toute l'info en direct, c'est votre journal sur RMC avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. La soirée s'est prolongée jusqu'à tard hier soir à Marseille. Le Vieux-Port carrément fermé. Il y avait trop de monde, 230 000 personnes et c'est le rappeur Jul qui a allumé la vasque olympique.
Et ces JO qui pourraient encore aggraver la surpopulation carcérale. Pour tenter de faire de la place, les transferts de détenus se multiplient. RMC a pu suivre l'un d'entre eux, document exceptionnel juste après votre journal Quentin.
La menace des États-Unis cette nuit. Le président Joe Biden envisage de ne plus livrer d'armes à Israël en cas de grande offensive à Rafah. Et la campagne des européennes, les élections, c'est dans un mois. Le gouvernement plus que jamais mobilisé aujourd'hui pour tenter de remonter dans les sondages.
Et c'était donc ça la surprise, le rappeur Jul qui a allumé la vasque olympique.
Oui, la flamme olympique est arrivée par la mer sur le Belém. Le nageur Florent Manodou, premier porteur de cette flamme. Et la surprise donc effectivement, le rappeur marseillais Jul qui a embrasé le Vieux-Port en allumant la vasque Julien Richard.
Oui, ils attendaient Zinedine Zidane. Mais bien caché sous une capuche, c'était donc Jul, fierté marseillaise.
Allez, Jul, c'est l'icône de Marseille. Hein.
Jul, c'est le meilleur rappeur marseillais.
Il a allumé la flamme olympique et il a dit « et merci la flamme ».
À voir Jul sur la scène comme ça, gigoter la flamme olympique. Personne voulait voir quoi? Ariane Nakamura à Paris? Allez-y les gars, nous on est à Marseille sur le Vieux-Port. Voilà. Jul sous la flamme.
Même les moins enthousiastes sur l'artiste le reconnaissent.
Un symbole de Marseille. Ah, c'est Marseille bébé.
Bob rouge sur la tête et maillot de l'OM sur le dos. Cécile, grande fan.
Parce que Jul, il est de Marseille. Ses textes parlent beaucoup aux Marseillais. Il est d'une générosité. Et c'est pour ça que tout le monde l'aime à Marseille. Il n'y a rien sans Jul. Il n'y a rien sans l'OM. À la vie, à la mort.
Jul, la flamme olympique et l'OM, jamais très loin.
Aux armes !
Les Marseillais qui n'avaient qu'une chose à dire à leur idole hier soir.
Au thème, Jul !
Le J, c'est le S. Voilà.
Bon, ça c'était en fin de journée et la soirée s'est prolongée jusqu'à tard hier soir, encore plus tard que prévu. Le concert des rappeurs Alonso et Soprano a commencé avec quasiment une heure de retard, un petit peu moins, mais parce qu'il y avait trop de monde en fait sur le Vieux-Port, hein, Romain Hougue.
Bah ouais, c'était l'affluence des grands soirs hein, sur le Vieux-Port. Les organisateurs misaient sur 150 000 spectateurs. Ce sont finalement 230 000 personnes qui ont assisté aux festivités à Marseille, nous dit la ville, à tel point que le concert gratuit de Soprano et d'Alonso, bouquet final de la journée, a été retardé. Tardé d'une heure, il y avait tout simplement trop de monde massé devant la scène, à l'endroit même où la flamme était arrivée quelques heures plus tôt. Les marins-pompiers de Marseille évoquent deux mouvements de foule, quelques malaises, mais rien de grave. Il a quand même fallu fermer les accès au Vieux-Port pendant plusieurs dizaines de minutes pour réguler un peu la foule. Finalement, le concert a pu se dérouler sans accroc et pour embraser son public, il fallait bien une chanson de circonstance.
Je suis en feu, voilà, Soprano. Alors la flamme olympique, elle a passé la nuit à la préfecture, sous bonne escorte bien entendu, et c'est à partir de ce matin qu'elle va commencer à sillonner le pays avec le début du relais de la flamme dont on parle depuis les mois, depuis Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère à Marseille. Elle va passer sur la Corniche, en bord de mer, et en fin de journée, Soprano, tiens, qu'on vient d'entendre, la mènera jusqu'au toit du stade Vélodrome. Il y aura 11 000 porteurs de cette flamme jusqu'à la cérémonie d'ouverture à Paris dans 3 mois. Formidable succès populaire, se réjouissait hier soir le président Emmanuel Macron.
La flamme arrive, les Jeux arrivent et rentrent dans la vie des Français. La flamme est là, les Jeux olympiques et paralympiques sont là dans la vie du pays, dans la vie de la France, on peut être fier. Et donc je crois maintenant que c'est l'enthousiasme populaire et c'est pour ça que je voulais être au milieu de tous ici. C'est la fête des Françaises et des Français. Et je veux qu'ils en soient fiers.
Il est 7h03 sur RMC. L'information de la nuit, c'est ce coup de pression aux États-Unis de Joe Biden qui, pour la première fois en 7 mois de guerre entre Israël et le Hamas, menace de suspendre les livraisons d'armes américaines aux Israéliens en cas d'offensive majeure à Rafah.
Des civils ont été tués à Gaza à cause de ces bombes ou par d'autres moyens avec lesquels ils attaquent des lieux où la population se concentre. J'ai été clair, si l'armée israélienne entre dans Rafah, ils ne sont pas encore rentrés, je cesserai de fournir des armes qu'ils ont déjà utilisées contre des villes. Nous continuerons à nous assurer qu'Israël est protégé par le dôme de fer, son bouclier de défense antiaérien, en cas d'attaque comme il y en a eu récemment, mais c'est mal viser des civils. Nous ne livrerons plus les armes et les obus d'artillerie.
On est le 9 mai ce matin, c'est la journée de l'Europe qui commence à un mois tout pile. des élections européennes. La majorité d'ailleurs accélère plus que jamais sa campagne pour tenter de remonter dans les sondages. 29 des 35 ministres en déplacement aujourd'hui, des interviews quasiment partout dans la presse régionale. C'est vraiment la mobilisation générale, Romain Cluzel.
Il faut mouiller le maillot, résume un conseiller ministériel. Et chaque ministre a sa méthode. Pour certains, c'est le tractage, comme le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, dans le Loir-et-Cher. D'autres veulent illustrer l'importance de l'Europe dans notre quotidien. La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, va donc parler d'Erasmus avec de jeunes étudiants. En plus du terrain, l'exécutif a demandé au ministre d'investir les médias locaux. Pas sûr pour autant que cela suffise à relancer la campagne poussive de Valérie Hayer. Un conseiller gouvernemental l'admet. C'est avant tout symbolique. On ne peut pas laisser cette journée de l'Europe aux oppositions, une manière aussi de montrer la bonne volonté de l'exécutif pour cette campagne et tenter au moins de lancer une dynamique. Une source ministérielle confirme, un peu résignée, au moins on n'aura pas de regrets, on aura essayé.
Est-ce que ce sera suffisant pour sauver la liste de Valérie Hayer? Je pose la question à Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe, qui sera mon invité en direct à 7h40.
Ah tiens, puisqu'on parle du gouvernement, ce couac gouvernemental concernant le projet de forage pétrolier qui fait polémique en ce moment en Seine-et-Marne, deux nouveaux puits sont envisagés dans la commune de Nonville. Autorisation de la préfecture, mais opposition de la mairie de Paris qui évoque un risque pour la qualité de l'eau potable dans la capitale. Alors, la loi est respectée. Ça, c'est ce que dit le ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Celui de la Santé, Frédéric Valletoux, émet de son côté des réserves. Voilà pour le couac. Sur place, Lucas Lebert pour RMC. Eh bien, les riverains s'inquiètent.
Oui, une pétition a même été lancée contre ce projet. C'est l'association Environnement Bocage Gâtinais qui la porte. Fabiola Sustendal en est la présidente.
La plateforme est très 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 proche d'habitation, 150 mètres, 200 mètres.
L'exploitation apporte déjà son lot de désagréments au quotidien, alors forcément, l'agrandissement inquiète.
Quand il fait en plein été, tu vas manger dans le jardin, tout d'un coup, forage, machin, ça pue et les gens sont obligés de rentrer chez eux, de fermer toutes les fenêtres. Ça pourrit vraiment la vie des gens.
Des risques aussi sur l'environnement, selon la mairie de Paris, avec un point de captage d'eau à proximité. Le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, justifie le projet par des contrôles nombreux et poussés sur l'exploitation. Insuffisant pour Jean-Claude Béillot, le maire de Nonville.
On ne peut pas laisser deux activités, le captage d'eau et le captage de pétrole, en pratiquer sur les mêmes lieux. On ne peut pas vivre avec une épée de Damoclès sur la tête. Les risques sont faibles, mais on constate deux incidents en 10 ans.
Des fuites d'hydrocarbures sur la plateforme pétrolière et sur les routes environnantes qui n'avaient pas affecté la qualité de l'eau. Mais le danger sur l'eau pompée et distribuée à 180 000 Parisiens est bien réel, selon la mairie de Paris.
Et puis, il reste une chance française cette saison sur la scène européenne en football. C'est Marseille ce soir chez l'Atalanta à Bergame. Demi-finale retour de Ligue Europa. Une semaine après le nul, un partout à l'aller. Jean Rességuet, vous allez commenter le match à 21h ce soir sur RMC. Et vous nous dites que pour la première fois, peut-être bien dans cette interminable saison marseillaise, il y a des raisons d'y croire.
Pour une fois, Jean-Louis Gasset a le choix. Son groupe est au complet, hormis Rongier bien sûr. Le choix pour son 11 de départ et le choix avec de la qualité sur le banc des remplaçants. Un groupe physiquement régénéré. Le fait de ne pas avoir joué le week-end dernier est un vrai plus, selon le milieu international Verretout. La deuxième période du match aller, solide, avec des joueurs inspirés, mais cette fois-ci, il faudra être encore plus efficace. L'entraîneur de l'OM, Jean-Louis Gasset, a insisté sur l'entame de match, gagner les duels, répondre aux défis physiques que l'Atalanta va proposer devant son public et surtout ne pas passer à côté d'un rêve, celui de jouer une finale européenne pour eux, les joueurs, et pour le peuple marseillais qui n'attend que ça après avoir accueilli la flamme olympique.
Et soirée spéciale pour cette demi-finale de l'OM à partir de 18h ce soir sur RMC avec dans la foulée l'after et la libre antenne. Et à la fin, tiens, c'est pas tout le temps l'Allemagne qui gagne en football. Remontada du Real hier soir pour remonter le Bayern, victoire de Madrid dans les dernières minutes de 2-1. Madrid qui jouera sa finale contre Dortmund le 1er juin prochain à Wembley.
Ouais, événement qu'on vivra évidemment sur RMC, tout comme le match de l'OM ce soir à Bergame. Et puis le prochain journal de Quentin Vinet, ce sera tout à l'heure à 8h. Autre événement à ne pas manquer tout à l'heure à 8h sur RMC. Et RMC Story, il est 7h08.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Les Jeux Olympiques pourraient faire exploser la population carcérale qui bat déjà des records. Une des solutions consiste à transférer les prisonniers d'une prison surpeuplée à une autre. Bonjour Lucille Pascanet.
Bonjour Charles.
Reporter au service police-justice d'RMC. Vous avez pu vivre un de ces transferts de l'intérieur. C'est un document RMC exceptionnel. On se retrouve tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Charles Magnin.
7h11, vous êtes bien sur RMC. Ça y est, la flamme est à Marseille, les JO sont en France et on va tout de suite s'intéresser à un phénomène qui risque de s'aggraver avec ces Jeux Olympiques, celui de la surpopulation carcérale. Bonjour Lucille Pascanet.
Bonjour Charles.
Reporter au service police-justice d'RMC. Dans un instant, on va découvrir le reportage exceptionnel que vous avez pu réaliser en accompagnant le transfert d'un détenu. Mais d'abord, le constat. Les prisons françaises n'ont jamais été aussi pleines. On bat des records tous les mois, Lucille.
Oui, encore une fois ce mois-ci, nouveau triste record battu. Au 1er avril, on compte 77 450 personnes incarcérées en France pour 61 629 places. En moyenne, le taux d'occupation des prisons françaises est de 125%. 17 établissements pénitentiaires dépassent carrément les 200%. Une situation qui mène à des conditions de vie dégradées pour les détenus. Ils sont souvent entassés à 2 ou à 3 dans des cellules de 9 à 12 mètres carrés, 23 heures sur 24. Plus de 3 300 personnes dorment sur des matelas posés à même le sol, Charles.
Alors comment on lutte contre cette situation ?
Eh bien, il n'y a pas de solution miracle, d'autant que le gouvernement a durci sa politique pénale avec des peines de prison plus longues et donc plus d'incarcération. 15 000 nouvelles places de prison devraient sortir de terre d'ici 2027. Mais en attendant, eh bien, c'est la débrouille. L'une des solutions qu'utilise l'État à court terme, c'est notamment de basculer des détenus d'une prison saturée à une autre, un petit peu moins surpeuplée, à proximité ou dans une autre région. On appelle ça des transferts de désencombrement. Mais dans les faits, ça ne change rien au problème, puisque, comme on le disait, presque toutes les prisons débordent.
Et ces fameux transferts de désencombrement, il y en a combien ?
Bien, il y en a plusieurs milliers chaque année. Et les transferts de détenus, ce ne sont plus les forces de l'ordre qui les gèrent, mais un corps de surveillance spécialement formé. On les appelle les équipes locales de sécurité pénitentiaire, les ELSP.
Et concrètement, on va voir tout de suite comment ça se passe. Parce que, Lucille, chose très rare, vous avez pu suivre de l'intérieur le transfert d'un détenu avec ces fameux surveillants armés spécialisés. C'était il y a quelques jours, vous vous êtes rendu à la prison de Varennes-le-Grand en Saône-et-Loire.
6h45 dans la prison de Varennes-le-Grand, le soleil se lève à peine et dans le local des ELSP, Anthony Cyril et Lionel se préparent et s'équipent pour ce transfert.
Là on va aller à l'armerie, on va aller s'équiper.
Donc le bâton, les deux chargeurs et l'arme.
Je viens de prendre mon gilet pare-balles et mon gilet tactique. À partir du moment où on va sur la voie publique, il faut être en sécurité, que ce soit pour nous ou pour le détenu qu'on prend en compte pour l'emmener soit sur les juridictions, soit à l'hôpital ou en transfert comme on va faire tout à l'heure.
Avoir un pied dans la détention et un pied dehors, ça change tout pour Anthony. Lui est aussi surveillant en coursive et donc il connaît les détenus qui l'accompagnent.
Bon, je travaille essentiellement en détention sur la maison d'arrêt et donc le détenu qu'on va transférer, j'ai eu l'occasion de le côtoyer sur différents mouvements. Donc ça nous permet d'avoir une autre approche sur la personne détenue et de connaître son comportement.
Aujourd'hui, au programme, c'est un transfert judiciaire. Un détenu doit assister à son procès à Nancy. Alors, il faut qu'il change de prison pour se rapprocher du tribunal. Avant de partir, le chef de l'équipe, Lionel, fait le point.
Alors, petit topo. Au niveau des dernières infos que j'ai pu relever, hier, il était pas trop pour partir. C'est quelqu'un de calme, mais qui peut être impulsif. On va aller au vestiaire. Prendre en charge.
La personne détenue est déjà là. Un autre surveillant lui a fait quitter sa cellule. Fouille obligatoire, puis formalité administrative. Et ça y est, il est 7h30, c'est l'heure de partir. Surveillant et détenu embarquent dans le fourgon.
Tout bon ?
Les portes de la prison s'ouvrent. Lionel active le gyrophare pour sortir de la ville.
Alors, on l'utilise essentiellement pour pas rester bloqué dans le trafic, pour pas être vulnérable.
Pendant le trajet, le détenu reste calme, il est menotté. Anthony est à côté de lui et il ne le lâche pas des yeux. 3 heures plus tard, on passe sans encombre une grande porte blanche. C'est celle de la prison de Nancy.
Bonjour.
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 Et
c'est bonjour. Le deuxième salle sur la gauche.
Là, notre voiture est arrêtée par un surveillant. Il met en garde Lionel. La dernière fois que ce détenu a été transféré ici, il a été agressif. Alors, à la descente, une équipe est prête à intervenir. Finalement, l'arrivée se passe bien. Présentation, empreintes et photos. Et ça y est, le détenu est transféré. Mission accomplie pour Anthony.
Ça s'est super bien passé. Le détenu a été coopérant. Il a montré aucune réticence pour son transfert. Donc, mission qui s'est très bien passée, comme dans 99% des cas.
Et dans les autres cas, il y a des risques spécifiques aux ELSP, explique Cyril, qui était chauffeur aujourd'hui.
Le risque, oui, c'est que sur la route, une famille veut récupérer le détenu ou des individus pourraient s'en prendre à lui. On doit le protéger aussi. On est formé pour répondre à ça.
Des transferts comme celui-ci, Lionel et son équipe en font tous les jours, parfois plusieurs par jour. L'an dernier, les ELSP en ont réalisé plus de 31 000 dans toute la France.
Ouais, plus de 31 000 transferts de personnes l'année dernière. Et ce que vous nous dites ce matin, Lucille, c'est que ce nombre ne va faire qu'augmenter avec les Jeux Olympiques.
Oui, parce que selon l'Observatoire international des prisons et les syndicats du secteur prison-justice notamment, l'afflux de personnes, de touristes venus profiter des JO pourrait mener à plus de délinquance et à plus d'interpellations, puisque le ministre de la Justice préconisait dès janvier, je cite, une politique pénale déterminée, prévoyant des réponses rapides, fortes et systématiques avant et pendant les Jeux. Plus d'interpellations et donc plus de garde à vue, qui mène à plus de comparutions immédiates et donc, in fine, à plus d'incarcération. Et la situation déjà critique dans les établissements pénitentiaires risque d'exploser tout simplement, selon Wilfried Funk, secrétaire national du syndicat UFAP UNSA Justice.
Aujourd'hui, c'est une véritable cocotte minute. Ça va sûrement péter à un moment ou à un autre. Est-ce que c'est du côté des détenus et on va se retrouver avec un été chaud bouillant et des mutineries sur cours de promenade? Ou est-ce que derrière, c'est les personnels qui commencent à en avoir un peu ras-le-bol, la grogne qui monte, et qui à un moment donné se traduira par des mouvements de blocage devant les tôles avec des pneus et des palettes qui brûlent? On est là dans une situation vraiment très complexe, avec une montée en charge du nombre de détenus qui aujourd'hui se conjugue avec une baisse des effectifs de personnel. À un moment donné, ça va pas tenir, non.
Son syndicat a d'ailleurs lancé un appel à une mobilisation massive prochainement pour pousser le gouvernement à réagir face à cette situation.
Merci beaucoup Lucille Pascanet pour cette enquête, ce document exceptionnel à retrouver sur rmc.fr et évidemment en podcast à tout moment sur l'appli RMC 7h18.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dans 20 minutes, comment réussir une remontada face à Jordan Bardella? C'est tout l'enjeu pour Valérie Ayer, la tête de liste Renaissance pour les Européennes, qui est à la peine dans les sondages. À un mois, jour pour jour du vote, le ministre de l'Europe, Jean-Noël Barrot, est mon invité à 7h40. Et puis tout de suite, c'est le 7h20 d'Apolline Matin avec Solène Leroux, Manu Le Chypre et le meilleur d'Arnaud Demanche.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Et tous les matins, RMC vous emmène dans les coulisses de l'actualité. On retrouve tout de suite Nicolas Roper. Bonjour Nicolas.
Bonjour Charles, bonjour à tous.
C'est à partir de ce soir que Taylor Swift entame sa tournée européenne. La pop star mondiale débarque à Paris pour 4 concerts à la Défense Arena. 180 000 fans vont pouvoir applaudir leur idole. Et vous l'avez constaté, Nicolas, depuis quelques jours, la folie Taylor Swift déferle sur la capitale.
Oui, une véritable Swiftmania s'empare de la capitale depuis le début de la semaine. Les premiers fans de Taylor Swift dorment même dans des tentes face à la Paris La Défense Arena depuis lundi soir. Les Swifties, hein, comme ils s'appellent eux-mêmes, viennent de partout en France, mais aussi de l'étranger pour 30% d'entre eux. Espagne, Portugal, Grande-Bretagne et même des États-Unis. On croise toutes les nationalités devant la plus grande salle d'Europe. Ces fans attendent l'ouverture des portes. Ils échangent leurs meilleures anecdotes sur leur idole, chantent ses chansons et fabriquent des bracelets de perles qu'ils s'échangent ensuite. C'est une véritable tradition pour les Swifties. Pendant 4 jours, ce sont 180 000 spectateurs qui assisteront au show de la pop star américaine. Il devait être 41 500 par soir, mais la visite d'une commission de sécurité mardi a permis d'augmenter la jauge à 45 000, a appris RMC. Conséquence, plus de 12 000 billets ont été remis en vente et ont trouvé preneur en quelques minutes.
Oui, mais Nicolas, accueillir ces concerts, ça réclame quand même une sacrée logistique, hein.
Oui, les forces de l'ordre seront présentes comme lors de chaque concert, confirme la préfecture des Hauts-de-Seine où se trouve la salle. Les chiffres de l'organisation donnent le tournis. Entre les membres de la production, la sécurité, la vente des produits dérivés, les hôtesses d'accueil, plus de 2000 personnes sont mobilisées sur ces 4 jours de concert. Rien que pour le spectacle, ce sont 80 000 semi-remorques qui sont nécessaires. Des camions qui vont ensuite sillonner l'Europe pour la suite de la tournée. À Paris, 145 palettes ont été livrées pour les t-shirts et autres accessoires à l'effigie de Taylor Swift, dont raffolent ses admirateurs. Les commerces autour de la Paris La Défense Arena se frottent les mains. On va se faire dévaliser, prédit le patron d'un restaurant qui donne sur l'esplanade. Si on exclut les Jeux Olympiques, c'est le plus gros événement de l'année, avance un autre qui a demandé à son personnel de ne surtout pas prendre de jours fériés. Car pour assister au concert de la décennie, les Swifties dépensent, sans compter, entre 70 et 240 euros, rien que pour obtenir une place.
180 000 Swifties à partir de ce soir à la Défense Arena. Et parmi eux, Manu Le Chypre, n'est-ce pas Manu?
Bah, franchement, je connais 3 chansons. Et j'ai tellement envie de voir le phénomène que voilà, j'y serai demain soir.
Manu, Swiftie, Le Chypre, demain soir à la Défense Arena.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Charles Magnin.
Et oui, c'est l'heure du 7h20 d'Apolline Matin avec toute l'équipe. RMC s'engage avec vous avec Solène Leroux. Bonjour Solène.
Bonjour Charles, bonjour tout le monde.
L'écho, le chiffre d'affaires, c'est Manu Le Chypre.
Bonjour à tous.
Et on va retrouver le meilleur d'Arnaud Demanche. On va se marrer dans un instant. Mais d'abord, donc Solène Leroux, ce matin, vous venez en aide à Francis.
70 ans et toujours à la page. Francis, il prend souvent des voyageurs en covoiturage autour de chez lui dans les Hautes-Pyrénées. Un moyen de partager les frais et, je le cite, ça permet de rencontrer des gens intéressant, je sais que Sébastien ne va pas me contredire là-dessus.
Ah, intéressant, partager les frais, oui, intéressant, pas toujours. Hein.
Ça, c'est le hasard de Blablacar.
Je ne sais pas quelle application vous utilisez. C'est Blablacar, du coup ?
C'est déjà arrivé, oui.
Ok. Pour Francis, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a un an, la plateforme lui propose une prime de covoiturage. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est le gouvernement qui l'a mise en place il y a à peu près un an, pour des raisons écologiques. Et Francis remplit le dossier en quelques clics, sauf qu'il n'a pas eu de nouvelles. Donc, il a relancé en janvier. Écoutez bien la réponse.
Il m'a expliqué que il pouvait pas me donner ma prime covoiturage parce que entre la déclaration que j'avais fait et mon permis de conduire, le nom et le prénom étaient inversés. Je trouve leur excuse pas très valable. Quoi.
Ah bah oui.
Non, c'est pas une blague. Sur son permis, c'est marqué Francis Coste. Sur sa déclaration, c'est Coste Francis. Trop complexe pour Blablacar, visiblement.
Pourtant, on est, soyons bien d'accord, Solène, Francis a le droit à cette prime.
Oui, il remplit tous les critères, avoir le permis. Alors, ça, je vous l'accorde, c'est
oui,
une évidence,
important.
Mais non. S'inscrire sur un site de covoiturage éligible et avoir fait un premier trajet de plus de 80 kilomètres, puis deux autres dans les trois mois suivants. En 2023, c'est près de 770 000 Français qui ont touché cette prime, et donc pas Francis, qui se sent floué. Il a une inquiétude.
Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'eux aient touché les 75 euros de la part du gouvernement, et puis qu'au lieu de les reverser aux jeunes, eh bien, ils se les gardent.
Mais alors, est-ce que la crainte de Francis est fondée ?
Non, je vous rassure, on a mis tout ça au clair. Marilyn Hotman a demandé au ministère de la Transition écologique comment cette prime était contrôlée. Il y a des examens aléatoires des plateformes de covoiturage pour éviter les dérives, justement. Un quart des primes sont ainsi vérifiées. Blablacar, de son côté, utilise les aides de l'État pour plusieurs choses. Et c'est légal, le versement de la prime, évidemment, mais aussi sa promotion, un dispositif anti-fraude et un service client dédié. Bon, un service qui fait parfois quelques bourdes, on va pas se mentir, oui. Comme avec Francis, suite à notre intervention, Blablacar s'excuse pour le délai de traitement de ce dossier. Et Francis nous l'a confirmé, il a enfin reçu sa prime.
Eh ben voilà, bravo Francis. Et puis pendant les covoiturages, si vous avez pas envie de parler, vous mettez RMC. Ça met tout le monde d'accord dans la voiture. Voilà. Ça fait l'unanimité.
Ça peut lancer le débat.
Voilà.
Ouais, ou des débats.
Ou des débats, évidemment. Voilà. Et puis peut-être qu'en ce moment, vous covoiturez et vous allez vous régaler en écoutant Le Chypre d'affaires, parce que c'est l'heure de Manu, voilà. Le Chypre, l'économie. Quel impact les JO vont-ils avoir sur l'économie française, Manu ?
Alors, le projet initial, au moment où Paris a présenté sa candidature, estimait d'un côté le coût des Jeux à presque 7 milliards d'euros, de l'autre les bénéfices à presque 11, soit 4 milliards de gains. Aujourd'hui, les coûts ont été revus à la hausse à presque 9 milliards, les gains un peu moins à 12 milliards, donc ça nous fait à peu près 3 milliards de bénéfices. Il faut retenir que ça fait 0,1 point de PIB. Alors, même si les économistes nous disent que ce sera plutôt entre 4 et 6, ça fait pas beaucoup. Et il faut rappeler que l'autre grand événement sportif de cet été qu'on a un peu tendance à oublier, c'est l'Euro de foot en Allemagne, et que les Allemands tireront à peu près le même bénéfice de l'organisation de l'Euro que nous.
Ouais,
Euro et JO, c'est à peu près comparable. Pourquoi ? Parce que pourquoi l'impact est quand même assez faible ? D'abord parce que la France est un pays développé, on a construit peu d'infrastructures finalement pour organiser ces JO, et que c'est une destination déjà très reconnue sur le plan touristique. Hein, et il y a même des gens qui viendront spécialement pour les JO, mais il y en a d'autres qui ne viendront pas à Paris parce que c'est les JO. L'impact des JO de Londres, par exemple, avait été quasi nul. Donc, il n'y a pas de gros impact global. Par contre, il y a des impacts très forts pour certains secteurs. On pense au tourisme, on pense au transport, grâce aux 1,2 million de touristes étrangers qui sont attendus. Il y aura quand même eu 200 000 emplois qui auront été créés. Et puis, n'oublions pas l'effet positif sur les recettes fiscales, hein, à peu près 5 milliards d'euros.
Bien sûr que Bercy ne l'oublie pas. Et puis, il y a des dépenses annexes qui n'avaient pas forcément été prévues. Hein.
Oui, alors effectivement, il y a toutes les primes distribuées par les administrations et les entreprises publiques pour les salariés qui seront mobilisés par les Jeux, jusqu'à 2500 euros pour les agents de la RATP ou les hôpitaux publics, jusqu'à 1900 euros pour les forces de l'ordre. Mais ça, c'est un classique. Dans toutes les villes où il y a eu des JO, hein, Athènes, Rio, Londres, il y avait quand même ce petit bras de fer avec les entreprises de transport, etc., pour obtenir des primes. Non, là où les Français sont très très forts et ont obtenu des choses que n'ont jamais obtenues personne. Vous savez, ce sont ces entreprises, et là on pense évidemment à la SNCF ou aux contrôleurs aériens, qui étaient dans des négociations professionnelles et qui ont profité de l'effet de nuisance potentielle pendant les JO pour faire pencher la balance en leur faveur. Et par exemple, les salariés de la SNCF sont les seuls qui, grâce aux JO, ont obtenu dans toute l'histoire un gain qui soit vraiment structurel, un gain durable. Hein, cette réforme de la fin de carrière, c'est quelque chose qui est ancré maintenant.
Grâce ou à cause, ça fait débat.
Grâce ou à cause, ça fait débat.
On va pas trancher tout de suite.
Ça a sans doute joué dans la négociation.
Merci Manu, on retrouve tout de suite Arnaud Demanche, le meilleur d'Arnaud Demanche. Souvenez-vous, ce jour-là, Arnaud nous parlait du prince Albert de Monaco qui estime que l'armée monégasque pourrait jouer un rôle pacificateur en Ukraine et au Proche-Orient.
C'est une bonne nouvelle.
C'est grâce au bal de la
Rose. Ouf, Monaco va intervenir. C'est plus la peine d'envoyer nos troupes en Ukraine. L'armée monégasque est sur le coup. Alors l'armée monégasque, ce sont les carabiniers du prince. Ils sont 124. Ouais. Dont une fanfare et un corps de plongeurs sous-marins. Donc à la frontière russo-ukrainienne, ils vont voir débarquer 12 hommes grenouilles, 3 clarinettistes, un tambour et 5 joueurs de trombone à coulisses qui vont débarquer sur We Are The World. Voilà, la paix est en marche. Oui. Merci Monaco.
Merci. Oh, merci Monaco.
RMC, Apolline Matin.
Vous êtes bien sur RMC pour le journal en direct avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous. L'OM veut entretenir la flamme. Demi-finale retour de Ligue Europa ce soir à Bergame. Les Marseillais veulent y croire. Marseille qui vibre au rythme de l'olympisme arrivé hier dans la ville. La flamme olympique débute son parcours en France. 69 jours avant de rejoindre Paris, un périple de 12 000 km à travers le pays. Et puis, l'épidémie de choléra fait une première victime à Mayotte, un enfant de 3 ans mort hier sur l'île française où le nombre de cas progresse.
La finale dans le viseur de l'OM, dernier club français engagé en Coupe d'Europe.
Une semaine après leur match nul au Vélodrome, un partout, les Marseillais se déplacent sur la pelouse de l'Atalanta Bergame. Ce soir, 21h, match à vivre sur RMC, une demi-finale de Ligue Europa inespérée pour l'OM qui va tenter, Florent Germain, de sauver une saison compliquée.
Oui, certains supporters marseillais ont même parfois du mal à y croire. Au terme d'une saison marquée par des tensions en coulisses, par 3 changements d'entraîneur et par des résultats indignes en championnat, Marseille est à un petit match d'une 6e finale de Coupe d'Europe dans son histoire. Le milieu de terrain Jordan Veretout reconnaît que l'OM est transcendé par cette Ligue Europa.
On a fait des choses bien, des choses un peu moins bien cette saison. Maintenant, on est en demi-finale de Ligue Europa, d'une Coupe d'Europe. C'est quelque chose de fort pour un joueur, pour un club, pour une ville. On va tout donner sur le terrain, on va se dépasser. On a envie de le faire pour eux aussi. Ils nous ont pas lâché cette saison. Ça a été difficile. Mais voilà, on va tout donner. On va donner le max.
Accrocher une finale de Coupe d'Europe, voilà qui pourrait redorer l'image d'un groupe qui a beaucoup souffert, reconnaît l'entraîneur Jean-Louis Gasset.
Le groupe a souffert, bien sûr. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des bonnes périodes, des mauvaises périodes, des périodes de doute. Ils sont conscients qu'ils sont à un match. D'un match historique et une concentration extrême.
L'OM est donc en mission pour sauver sa saison, voire la rendre inoubliable en déplaçant des milliers de supporters marseillais à Dublin le 22 mai prochain.
Marseille gâtée hier pour l'arrivée de la flamme olympique. Plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées sur le Vieux-Port pour assister à l'allumage du chaudron par le rappeur Jul. Une flamme arrivée par la mer à bord du Belém avant le départ du relais. Dans moins d'une heure maintenant, depuis Notre-Dame de la Garde, un lieu cher aux Marseillais, début d'un périple de 69 jours jusqu'à Paris, porté par plus de 11 000 relayeurs. La flamme traversera 400 villes, un relais de 12 000 km et des lieux emblématiques. Caroline Philippe.
Un parcours sportif, évidemment, puisque la flamme grimpera le Mont Ventoux, foulera la pelouse du stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne, sans oublier la terre battue de Roland-Garros. Elle ira même sous l'eau à Villefranche-sur-Mer pour une séance d'apnée. Mais la flamme plongera aussi dans l'histoire de France, avec un passage devant les grottes de Lascaux ou le château de Versailles. Elle rendra aussi hommage à des figures comme le général de Gaulle à Colombelles, les deux églises ou Jeanne d'Arc à Orléans. Valoriser l'histoire et le patrimoine français avec un arrêt dans les vignobles de Saint-Émilion, sans oublier la culture avec une descente des marches du Palais des Festivals à Cannes ou encore une visite au Puy du Fou. Ça, c'est pour la France métropolitaine, mais la flamme sillonnera aussi les territoires ultramarins, Guadeloupe, Guyane, Nouvelle-Calédonie ou encore La Réunion.
Une flamme qui va allumer les cœurs, déclarait hier Emmanuel Macron, présent à Marseille pour la cérémonie. Le chef de l'État qui appelle son gouvernement à la mobilisation, à la peine dans les sondages. Le camp présidentiel entend se relancer à un mois des élections européennes. 29 ministres sont en déplacement ce jeudi. Frédéric Valletoux, ministre de la Santé, sera à Mayotte où l'épidémie de choléra a fait une première victime hier. Mao Bécard-Gagné.
Oui, il s'agit d'un enfant de 3 ans décédé hier dans la commune de Kungu. Depuis la mi-mars, plusieurs cas de choléra avaient été recensés sur cette île française. Au départ, il s'agissait principalement de contamination par des personnes revenant des Comores. Les Comores où l'épidémie flambe, 98 personnes sont déjà décédées. Mais depuis 2 semaines, des cas autochtones ont été recensés, c'est-à-dire des patients porteurs du choléra alors qu'ils n'ont pas quitté l'île. Et ce, malgré la mise en place depuis février d'un protocole pour éviter la propagation de la maladie. Dernier bilan datant de lundi, 58 cas de choléra dont 6 actifs ont été recensés. L'agence régionale de santé préconise de se laver les mains fréquemment et de boire de l'eau potable uniquement. Une consigne difficile à respecter alors que l'île est soumise à d'importantes restrictions d'eau.
Les États-Unis ne livreront pas certaines armes à Israël en cas d'offensive contre Rafah. Avertissement hier de Joe Biden. C'est la première fois que Washington pose une condition au soutien militaire à l'État hébreu qui juge ce matin très décevante la menace brandie par le président américain. En ce long week-end de pont, vous serez nombreux à visiter les plus beaux endroits de France, parmi eux le Mont-Saint-Michel. 100 000 visiteurs y sont attendus jusqu'à dimanche, une affluence redoutée par le directeur du site qui avait annoncé des mesures incitatives l'an dernier afin de désengorger le site aux heures de pointe, notamment la gratuité des parkings à partir de certaines heures. Des mesures qui n'ont pas été forcément suivies par les touristes. Martin Cadoret, vous l'avez constaté hier, les rues du site étaient encore bondées.
Une heure, Callison et son conjoint arpentent l'étroite rue principale.
Bah, à part avoir piétiné pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose de plus. Et puis bah oui, les rues sont étroites, donc forcément ça bouche. C'est un peu agaçant, mais en même temps, bah, nous on est là aussi. Donc on participe quand même au fait qu'il y ait du monde.
Des touristes que le Mont-Saint-Michel incite à venir hors des heures de pointe. Et ça semble porter ses fruits auprès de Micha, qui s'est organisé.
J'avais vu sur internet que si on arrivait à ses bonnes heures, on avait toutes les chances de passer crème. Et du coup, on a pu circuler librement, c'était vraiment top. Mais là, c'est vrai que ça commence à être bien chargé.
Une affluence qui empêche Angéline de profiter de la solennité du lieu.
Logiquement, tout ça, c'est une lente progression vers l'abbaye pour se recueillir. Donc, je trouve ça dommage quand il y a beaucoup de touristes. Sur tous les lieux comme ça, des jauges touristiques, moi, ça ne me gêne pas. À limite, réservée à l'avance, pourquoi pas.
L'idée ne séduit pas Élodie Studler, artiste peintre qui a sa boutique dans la rue principale.
Sans le tourisme, je ne pourrais pas vivre de mon art. Je pense que les mesures ont déjà été prises avec la gratuité des parkings le soir. Ce qui est bien, c'est que les gens aussi arrivent un peu plus tard en soirée.
Des messages sont aussi affichés sur les panneaux d'autoroute pour inciter à reporter sa visite quand l'affluence est trop forte.
Le reportage de Martin Cadoret pour RMC. Et puis le Real Madrid s'est qualifié hier pour la finale de la Ligue des Champions, mené 1-0. Les Espagnols ont renversé le match pour s'imposer dans les toutes dernières minutes de la rencontre. Score final 2-1. Madrid qui sera opposé à Dortmund le 1er juin prochain à Wembley.
Et puis les courses Paris-Longchamp aujourd'hui, Thibaut.
Et c'est à 20h15 sur RMC Découverte. Le 9 spécial est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 2. On y croit, le 9 et le 2.
On y croit aussi pour l'OM ce soir, bien évidemment. En demi-finale de la Ligue Europa à vivre sur RMC. C'était le journal de Thibaut Texer qu'on retrouve tout à l'heure à 8h30. Mais tout de suite, on va partir au 32-16, accueillir Marie qui nous appelle du Cantal. Bonjour Marie.
Bonjour Charles.
Ah Marie, et... depuis ce matin, on parle des JO, vous l'entendez évidemment, vous avez sûrement suivi hier soir, vu les images en tout cas de cette incroyable cérémonie à Marseille, l'arrivée du Belém, la ferveur, plus de 200 000 Marseillais réunis. Qu'est-ce que vous en avez pensé Marie?
Juste avant, aller l'OM hein, ce soir.
Ça c'est noté, ben voilà. Supportrice de l'OM et donc j'imagine ravie de voir la fête hier à Marseille.
Ah, pas du tout.
Ah.
Si vous saviez comme j'en ai rien à faire des Jeux Olympiques, ben alors je crois que vous n'avez même pas idée.
Ah bon?
Ah ouais, pas du tout. J'ai vu quelques images aux actualités, mais alors là, je suis, moi, il n'y a aucun déclic, je m'en fiche éperdument.
Et quand vous avez vu le rappeur Jul là,
oh ben non, mais là c'est le pompon de la pomponnette de Marseille, quoi. C'est Dorothée Soprano, je dis pas, mais alors Jul, voilà quoi. Bon bref.
Vous êtes plus soprano que Jul. Bon, je vais pas lancer ce débat maintenant, Marie. Mais oui, c'est. Bah, on va attendre un peu. Peut-être que la ferveur va monter, la flamme va passer partout en France, évidemment.
Ah ouais,
Marie.
Non, moi je me déplacerai pas pour aller voir la flamme olympique. Ça, non, rien à.
Rassurez-moi, Marie, vous serez quand même derrière nos athlètes français pendant les épreuves.
Oh, ben si, par exemple, Todi Riner nous sort une belle médaille d'or, mais je n'ai pas besoin des Jeux Olympiques pour le soutenir. Il y a d'autres compétitions. Non, non, là, je trouve que c'est trop. C'est une overdose.
Ah bah alors que d'autres étaient impatients. Et puis alors là, Marie, on peut pas le nier, la ferveur, évidemment, hier, vous l'avez vu sur les images, plus de 200 000 Marseillais réunis hier soir. En tout cas, Marie, ces JO, on va les vivre sur RMC. Et je suis sûr que petit à petit, la ferveur va monter quand la flamme va passer près de chez vous, quand les épreuves vont débuter, évidemment, à partir du 26 juillet. Merci, Marie, d'être venue partager, parce que évidemment, vous prenez la parole en toute liberté à tout moment. Vous l'entendez comme Marie au 32-16. Il est 7h39.
RMC, 6h39.
Apolline Matin.
À suivre sur RMC, il faut sauver le soldat Valérie Ayer. La tête de liste Renaissance est à la peine dans les sondages. Gabriel Attal a demandé à ses ministres de se démultiplier sur le terrain et dans les médias. Eh bien, à un mois, jour pour jour, des européennes, c'est Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe, qui est mon invité tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Charles Magnin.
7h41 sur RMC.
L'invité du jour.
Bonjour Jean-Noël Barrot.
Bonjour.
Ministre chargé de l'Europe, merci d'être avec nous. Nous sommes à un mois, jour pour jour, du scrutin européen. Vous êtes un soutien, évidemment, de la liste Renaissance portée par Valérie Ayer. Une liste qui est à la peine dans les sondages. Chaque jour, l'écart se creuse un peu plus entre votre liste et celle du RN, de Jordan Bardella. On va y revenir. Mais d'abord, Jean-Noël Barrot, vous êtes en ligne avec nous depuis Marseille. Vous avez assisté, évidemment, hier soir à l'arrivée de la flamme olympique. C'était une belle cérémonie, notamment cette image du rappeur Jules qui allume le chaudron. Même si on entend depuis ce matin au 32-16 que ce choix fait débat. C'était le bon choix, Jean-Noël Barrot, le rappeur Jules?
Mais hier, dans le Vieux-Port de Marseille, c'était un spectacle féerique, c'était une grande fierté française et c'était un immense succès populaire puisque ce sont plus de 200 000 de nos concitoyens qui se sont rassemblés pour accueillir cette flamme. C'est vraiment, on s'en rend compte, ce que ces Jeux Olympiques vont révéler en nous, ce que nous avons de meilleur, la fierté d'être français et la soif d'être ensemble. Et puis, la fête continue aujourd'hui puisque nous accueillons pour la première fois dans l'histoire des Jeux le relais européen de la flamme, 27 athlètes venus de tous les pays de l'Union européenne, avec une athlète ukrainienne qui vont à leur tour porter la flamme pour faire la démonstration que ces Jeux de Paris 2024 seront européens, que la solidarité de l'Europe avec l'Ukraine est sans faille, et puis bien sûr que l'Europe a en réalité, en ce 9 mai, journée de l'Europe, elle a une âme, elle a un visage, celui de ses 28 athlètes et par un athlète olympique.
Jean-Noël Barrot, vous m'avez répondu sur tout, sauf sur Jules.
Jules, c'est une figure de la scène culturelle marseillaise, c'est une figure française, c'est un grand artiste, c'était une surprise pour tout le monde, et je crois que les 200 000 personnes qui étaient massées hier à Marseille étaient ravies de cette surprise.
Et alors on va parler évidemment de ces européennes, Jean-Noël Barrot, si je vous parle sondage, vous allez tout de suite me dire que les sondages se trompent?
Bon, c'est pas les sondages qui font l'élection, c'est le peuple français, mais ce que je constate, c'est que cette campagne marque une inflexion, que de plus en plus nos concitoyens s'intéressent à cette élection, que certains des concurrents de Valérie Ayer vont être, qu'ils le veuillent ou non, obligés de venir sur le terrain européen, qu'ils ont déserté jusqu'à présent pour masquer le vide de leur bilan, et qu'alors apparaîtra que le seul bulletin de vote ultime dans cette élection, c'est celui de Valérie Ayer.
Jean-Noël Barrot, vous vous intéressez au sondage pour me dire que les Français s'intéressent de plus en plus à cette élection, mais regardons leurs intentions à ces Français. Ces Français, dans le dernier sondage en date, le RN est à 31%, la liste de Valérie Ayer à 15%, le PS de Raphaël Glucksmann à 14%. Aujourd'hui, le match pour Renaissance, il est presque plus avec Raphaël Glucksmann qu'avec Jordan Bardella, non?
D'abord, vous avez cité l'un des multiples sondages qui fleurissent. Ce que je constate, c'est que après avoir atteint un certain niveau, la cote de Raphaël Glucksmann est en train de s'effriter jour après jour. Mais surtout, je le redis, ça n'est pas l'élection, ça ne sont pas les sondages qui font l'élection, ce sont les électeurs, c'est le peuple français. Et je le rappelle, le 9 juin, c'est une élection à un tour, à la proportionnelle, qui permet à chacun d'exprimer sa voix et d'être représenté. Et ça ne vous étonnera pas, je le répète, le seul vote utile dans cette élection, le seul bulletin de vote, c'est celui de Valérie Ayer.
Pourtant, les listes qui sont donc en dynamique, oui, c'est plutôt celle de Jordan Bardella, clairement. Raphaël Glucksmann a fait une percée aussi ces dernières semaines.
Qui s'effrite depuis un certain nombre de jours. Je vous invite à consulter les sondages si vous y intéressez.
La dynamique est plus de son côté que de celui de Valérie Ayer. On va pas y ergoter sur les sondages. La vraie question, c'est où aller trouver des voix pour Valérie Ayer. On voit qu'à gauche, c'est Raphaël Glucksmann qui ramasse. À la droite de la droite, c'est Jordan Bardella. Elle est un peu coincée entre les deux aujourd'hui, non?
Et c'est la raison pour laquelle toute la majorité présidentielle, des militants jusqu'au Premier ministre, sont mobilisés. 2500 personnes rassemblées à la Mutualité à Paris mardi, dans une grande unité, dans une grande ferveur, pour porter Valérie Ayé et ses 80 colistiers jusqu'à la victoire, en réveillant les pro-européens pour leur dire que ce qui se joue dans cette élection est fondamental, que c'est l'avenir de l'Europe et que si vous êtes pro-européen, alors vous devez soutenir Valérie Ayé.
Tous les poids lourds de la majorité, oui, vont être mobilisés. Gabriel Attal va lui-même aller débattre avec Jordan Bardella, ce sera le 23 mai. Emmanuel Macron a prévenu qu'il allait s'impliquer dans la campagne d'ici le 9 juin, mais on ne sait pas sous quelle forme. Est-ce que Jean-Noël Barrot, il faudrait qu'Emmanuel Macron vienne en meeting aux côtés de Valérie Ayé?
C'est évidemment à lui d'en décider. Ce que je puis dire, c'est que je me déplace plusieurs fois par semaine dans tous nos territoires. Et ce que je constate, c'est que toute la majorité présidentielle est aujourd'hui mobilisée, tant cette élection est importante pour nous. Nous la considérons comme existentielle. L'Europe, c'est notre assurance vie. Elle est en danger. Nous devons la protéger.
Et pourtant, ce discours, j'en reviens au sondage, ne semble pas vraiment percé auprès des Français. On voit que c'est clairement Jordan Bardella, qui pourtant parle peu d'Europe, qui ramasse la mise. Alors, comment parler aux Français d'Europe? Comment faire que l'Europe s'invite dans ces élections européennes?
Eh bien, en parlant, comme vous m'invitez à le faire ce matin, ce que je constate à nouveau, c'est que depuis quelques jours, depuis notamment ce grand meeting à Paris, à la Mutualité, qui a rassemblé plus de 2500 militants de la majorité présidentielle, on sent que cette campagne marque une inflexion, que les questions européennes vont enfin s'inviter dans le débat et que cela sera à notre avantage, puisque contrairement à nos concurrents, nous avons un excellent bilan et nous avons un projet solide pour l'avenir de l'Union européenne.
Mais pourtant, moi, j'ai entendu Valérie Ayé en débat avec Jordan Bardella sur BFM TV pointer son bilan à Strasbourg, ses liens avec la Russie. Rien ne semble atteindre Jordan Bardella aujourd'hui.
À mesure que nous allons parler d'Europe, nous allons forcer Jordan Bardella à se démasquer, à démontrer que derrière sa stratégie qui consiste à nationaliser ce scrutin pour en faire une répétition générale pour l'élection présidentielle, eh bien, il y a un vide de son bilan, il y a un défaut de ses propositions, puisqu'en réalité, elles n'ont pas tellement changé depuis celles que formulaient Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen avant elle, c'est-à-dire sortir de l'Union européenne. Sauf que nous avons une victoire idéologique majeure sur le Rassemblement national ces dernières années, c'est que désormais, les Français soutiennent massivement l'adhésion, l'appartenance à l'Union européenne, que Jordan Bardella ne peut plus le dire, mais que son programme consiste en réalité en un Frexit en pièces détachées.
J'ai une dernière question, Jean-Noël Barrot, pour ceux qui nous écoutent et qui, pour certains, iront voter aux européennes, mais pas forcément sur des enjeux européens. Vous nous avez répété plusieurs fois que ces élections étaient cruciales, vitales pour l'Europe. Soyons concrets, qu'est-ce qui peut changer dans le quotidien des Français à l'issue d'un scrutin de ces élections européennes? Comment les convaincre que ces élections, est-ce qu'elles ont un réel impact sur leur vie dans les mois, dans les années qui viennent?
L'Union européenne, c'est notre assurance vie contre les grands risques de ce siècle qui commence. Le risque de la guerre et de l'insécurité généralisée sur notre continent, tout autour de nous. Le risque du décrochage économique, de l'appauvrissement, de la perte de pouvoir d'achat face à la Chine ou aux États-Unis. Le risque ensuite lié aux conséquences du dérèglement climatique. Pour tous ces grands risques, nous ne pouvons pas répondre tout seuls. Nous avons besoin d'une Europe forte et nous avons besoin que la France soit entendue en Europe. Ça a été le cas ces 5 dernières années. Pour que ça continue de l'être, un seul choix, celui de Valérie Ayé et de ses 80 colistiers.
Merci Jean-Noël Barrot, ministre chargé de l'Europe, d'avoir été en direct avec nous ce matin, à un mois, jour pour jour, de ces élections européennes. Il est 8h10 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dans un instant, c'est Expliquez-nous, Nicolas Poincaré.
Pourquoi le vaccin anti-Covid AstraZeneca est retiré de la vente?
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus de Seb, c'est l'hymne des Jeux de Paris 2024 qui a été dévoilé, joué pour la première fois hier soir lors de l'arrivée de la flamme.
Oui, ça faisait partie des secrets très bien gardés par l'organisation. L'hymne officiel, le thème musical qui va accompagner ces JO. Son titre, c'est Parade. Et vous voyez, il commence doucement par quelques violons de façon assez classique, mais ensuite, les chœurs arrivent. Et là, ça devient un peu plus épique. Alors certains y voient une ressemblance avec des musiques de films comme Jurassic Park, oui. Par exemple. Hier soir, c'est l'Orchestre Philharmonique de Marseille qui l'a joué pour la première fois en public depuis le palais du Pharo. Alors préparez-vous, on va beaucoup, beaucoup entendre cette musique à chaque étape de la flamme, sur les compétitions, lors des cérémonies officielles. Le compositeur, c'est Victor Lehmann. Il avait travaillé dans le passé avec Philippe Catherine, avec Bernard Lavilliers ou encore avec le groupe Justice. Il raconte qu'on lui a confié la mission de réinventer la Marseillaise. Ça a été quand même un an de travail.
Et Victor Lehmann, justement, sera mon invité tout à l'heure en direct sur RMC à 8h40.
Ouais, et vous allez voir que ce thème va se décliner dans de nombreuses orchestrations différentes, y compris d'ailleurs pour mettre l'ambiance.
RMC, Apolline Matin.
7h53, bon réveil sur RMC.
Expliquez-nous.
Avec Nicolas Poincaré, le vaccin AstraZeneca contre le Covid, Nicolas, a été retiré du marché hier. Officiellement, c'est parce que la demande a chuté. En réalité, ce vaccin britannique est aussi soupçonné d'avoir provoqué des effets secondaires.
Oui, c'est la fin de l'histoire pour ce vaccin AstraZeneca. Dans la course au vaccin contre le Covid, il était arrivé troisième derrière Pfizer-BioNTech, l'association du géant américain et d'une petite PME allemande, et derrière Moderna, cette entreprise de la tech américaine dirigée par un Français. Ce vaccin était le résultat de recherches menées par l'université d'Oxford en Grande-Bretagne, associée au groupe pharmaceutique anglo-suédois. Pfizer, Moderna et AstraZeneca, c'était donc le tiercé dans l'ordre. Ils s'étaient partagé au départ l'énorme marché mondial de la vaccination contre le Covid à partir du début 2021. Et depuis, AstraZeneca a écoulé son sérum à 3 milliards de doses en 3 ans et demi. La plupart à prix coûtant, il faut le noter, parce que c'était une des conditions posées par les chercheurs d'Oxford.
Et la commercialisation de ce vaccin s'est donc arrêtée hier.
Oui, AstraZeneca l'a retiré de la vente et à la demande du laboratoire, l'Agence européenne du médicament a retiré son autorisation de vente. Tout cela pour que les stocks qui existent encore ne puissent plus être écoulés. Le géant pharmaceutique explique que cette décision est tout simplement due à la chute de la demande dans le monde entier. On se vaccine de moins en moins et avec ce vaccin-là en particulier, les ventes avaient même en réalité déjà cessé depuis un certain temps. AstraZeneca se dit tout de même fier d'avoir contribué à lutter contre la pandémie. Incroyablement fier, je cite. Le laboratoire estime que son vaccin a sauvé 6,5 millions de vies rien qu'au cours de l'année 2021. C'est eux qui le disent. Son retrait aujourd'hui serait donc uniquement dû à des raisons commerciales et non pas à des soupçons sur la sécurité.
Mais pourtant, des soupçons, il y en a eu. Hein.
Oui, dès le début, ce vaccin a fait débat. En France, il a d'abord été autorisé, puis interdit, puis réservé aux plus de 65 ans. Emmanuel Macron s'était interrogé publiquement sur son efficacité, ce qui avait provoqué une très grosse colère de Boris Johnson, le Premier ministre britannique. Les Américains, de leur côté, n'avaient jamais autorisé la mise sur le vaccin sur le marché de ce vaccin anglais. La question la plus sérieuse est celle de possibles thromboses liées à l'utilisation de ce produit. Dès le mois de mars 21, 3 mois donc après sa mise sur le marché, l'Agence britannique du médicament avait annoncé que 7 patients étaient morts d'une thrombose, c'est-à-dire d'un caillot de sang qui bouche une veine. En France, à la même date, 4 décès étaient constatés, 4 décès sur 2 millions de vaccinés à l'époque. L'Agence européenne du médicament avait conclu que le lien de cause à effet entre le vaccin et ces thromboses était possible, mais elle avait jugé que la balance du bénéfice-risque restait positive, c'est-à-dire que le risque de mourir du Covid était plus grand que celui de mourir d'une thrombose, d'après cette agence. Le vaccin, en tout cas, est resté en vente depuis 3 ans, jusqu'à hier, même si en Grande-Bretagne, un collectif de 50 familles a porté plainte contre AstraZeneca. Cette action auprès de la Haute Cour britannique de justice est peut-être aussi à l'origine du retrait de la vente.
Mais d'ailleurs, Nicolas, on ne parle plus du tout du Covid, là, on en est où de la pandémie ?
Eh bien, on n'en parle plus parce que le virus est de moins en moins présent, de moins en moins dangereux. Il fait environ, en ce moment, autour de 200 morts par jour dans le monde entier, ce qui est très peu. C'est 100 fois moins que ce qu'il faisait au pic de la crise. Le Covid, depuis le début, est tout de même responsable de la mort de 7 millions de personnes sur la planète.
Expliquez-nous, Nicolas Poincaré, tous les matins en direct sur RMC et à tout moment, évidemment, en podcast sur l'appli. Dans 2 minutes maintenant, on se retrouve pour le journal de 8h, la météo. Et tiens, à la une du journal de 8h, nous irons à Marseille où le relais de la flamme olympique s'apprête à débuter dans quelques minutes. On retrouve notre envoyé spécial, Julien Richard, dès le début du journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.